Internet Campagne, bonjour. Aujourd'hui, nous sortons du rang et surtout de la collecte des initiatives dans le département de l'Essonne. On y revient demain. Pour réparer un oubli, entre parenthèses, si c'était le seul, ce serait trop simple. Et c'est vrai qu'il est difficile de rendre compte de l'intensité des actions que mènent des bénévoles, mais aussi des salariés du monde associatif ou coopératif. Cela vaut également pour les quelques 4000 fondations qui œuvrent au bénéfice de toutes et tous partout en France. Les instigateurs de ces démarches sont très souvent, et qui sont très souvent alternatives, reconnaissent tous la difficulté qu'ils éprouvent à communiquer. Or, devant le bataillon des solutions qui débordent et qui nous dépassent, ici même dans les carnets, il est en effet très difficile, voire impossible, de gagner un peu de lisibilité lorsque l'on est pris la tête dans le guidon par les missions que l'on s'est assignées. Donc aujourd'hui, nous allons donner une carte blanche, en quelque sorte, à une fondation qui a passé le cap des 100 ans d'existence en toute discrétion, mais dont les constructions sont pourtant plus que louables. Ce carnet est donc consacré aujourd'hui à la fondation Cognac Jet, dirigée par Jean-Luc Fidel.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Luc Fidel, bonjour.
Oui, bonjour.
Jean-Luc, directeur général de la fondation Cognac Jet, qui a dépassé les 100 ans.
Oui, tout à fait. La fondation Cognac Jet est née en 1916. Créé par Monsieur Cognac et Madame Jay, qui ont été des entrepreneurs exceptionnels de leur temps, puisqu'ils ont créé les grands magasins de la Samaritaine à Paris. Ils ont rapidement construit un empire, un univers commercial exceptionnel pour leur temps, et ont souhaité très rapidement créer des œuvres d'intérêt général pour, à l'époque, les employés du grand commerce parisien, et puis très rapidement l'ensemble de la population.
Pendant 90 ans, la fondation a été muette. C'était silence radio, ce qui est incombe quand on dit Cognac Jet. Vous savez, ça rappelle les vieux réflexes au RTF. À vous, Cognac Jet. Pendant 90 ans, il n'y a pas eu de communication sur la fondation.
Très peu, car la fondation, d'abord, était centrée sur ses missions premières, qui est de venir en aide à des publics défavorisés. Mmh. Et pendant 90 ans, il y avait une relation étroite entre les grands magasins de la Samaritaine et puis la fondation Cognac Jet, puisque la fondation était détenteur de la majorité du capital de la Samaritaine. Et les dirigeants successifs ont estimé qu'il était difficile et compliqué à la fois de communiquer sur des œuvres d'intérêt général et en même temps de communiquer dans le métro parisien sur un grand magasin.
Alors qu'aujourd'hui, on ne se gêne pas pour ça, vous avez remarqué. Donc, vous avez quand même changé d'orientation, et heureusement, parce que comme ça, ça me permet de mieux vous connaître. Le public concerné par les actions solidaires de la Fondation Cognac Jet sont des publics plutôt personnes âgées, des fins de vie, des personnes malades, ou des enfants jeunes en rupture de scolarité.
Alors nous couvrons en fait tous les âges de la vie. Nous avons à la fois des structures pour enfants, effectivement, qui sont des structures de protection de l'enfance, des enfants qui ont été victimes de carences éducatives. Et puis nous balayons tous les stades de la vie avec un lycée d'enseignement professionnel, mais aussi des structures hospitalières, allant jusque effectivement le dernier stade de la vie, c'est-à-dire la vieillesse, la prise en charge de la dépendance et la fin de vie, puisque nous avons à ce jour, deux établissements hospitaliers.
Dans les années 80, la Fondation était une des premières à créer une unité de soins palliatifs, également une unité d'hospitalisation de personnes atteintes du sida. Vous travaillez avec quels moyens et quelles compétences ?
Alors, je crois que c'est une volonté de la Fondation d'être très attentif aux besoins de son époque. C'est la raison, effectivement, pour laquelle nous avons été un des tout premiers acteurs de prise en charge et d'accompagnement palliatif à l'époque des malades du sida. Et aujourd'hui, nous continuons d'ailleurs à les accompagner à travers des structures de réinsertion sociale ou professionnelle.
Vous voulez dire que tout ce qui n'est pas pris en charge par les services de santé conventionnels sont pris en charge par la Fondation, parce qu'on entend ça dans les expériences que vous avez menées jusqu'à présent.
Alors, on n'a pas la prétention de pouvoir répondre à tous les besoins, mais bien évidemment, nous essayons d'apporter des compléments là où le secteur public a une activité de masse qui est fondamentale, qui est importante, car elle assure une part extrêmement importante des prises en charge, mais nous sommes là pour apporter des petits compléments rapidement en fonction des situations qui apparaissent.
On va donner quelques exemples, parce que 1200 salariés pour la Fondation Cognac-Jay, 11 établissements que vous gérez, vous n'êtes que 5 salariés, vous me disiez, au siège pour être plus proche des personnes qui agissent dans le réseau. Dans les années 2000, c'est la reprise de l'ancien hôpital Saint-Jacques à Paris. C'est-à-dire que là aussi, vous intervenez sur des lieux de santé qui, normalement, vont disparaître.
Oui, l'idée, c'est tout simplement de pouvoir fédérer des moyens, c'est-à-dire qu'il se trouvait que nous avions un des plus petits établissements hospitaliers parisiens dans le 15e arrondissement et que nous nous sommes associés avec un autre petit établissement pour reconstruire un établissement de taille plus importante permettant d'améliorer le fonctionnement de cet établissement au service du bien commun.
Je rappelle une réalité, tout le monde le sait, il y a les malades riches et les malades pauvres. Souvent les riches sont les premiers servis, les pauvres sont tardivement servis. Et vous intervenez surtout auprès de cette population.
Oui, nous avons une pratique qui veille à faire en sorte que l'ensemble de nos services soit accessible financièrement à toute la population. Par conséquent, que vous soyez riche ou pauvre, vous êtes traité exactement de la même manière. Et en particulier, dans nos deux établissements hospitaliers, nous renonçons au reste à charge. Lorsque des patients ont besoin de chambres particulières, par exemple, ils ne payent jamais cet élément. Ça fait partie d'une vocation sociale de la Fondation. Nous y tenons particulièrement. C'est un renoncement à recettes dans une période difficile. Mais nous pensons que c'est nécessaire au regard des valeurs de la Fondation.
Jean-Luc Fidel, directeur général de la Fondation Cognac-Jay, invité des carnets de campagne pour présenter cette belle centenaire, 101 ans très exactement, avec un laboratoire de solidarité dont on va parler, un site internet qui est un site ressource aussi en matière de solidarité. Et tout à l'heure, on parlait donc de 1200 salariés, 11 établissements, pour l'instant principalement en Île-de-France. Vous refusez l'expansion ?
Non, nous ne refusons pas l'expansion, bien au contraire. Nous pensons aujourd'hui que le secteur associatif, le secteur des fondations notamment, est un secteur qui est confronté à un certain nombre de difficultés économiques, en particulier car ces structures, ces institutions, n'ont pas toujours les moyens d'assurer leur transformation sur un plan financier. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité voler, en quelque sorte, au secours et aux besoins de l'hôpital Forcy en Seine-et-Marne il y a quelques années maintenant, établissement que nous avons contribué très largement à redresser et pour lequel nous envisageons maintenant un très beau projet immobilier de rénovation. Mais nous sommes donc très attentifs à soutenir notre secteur car nous pensons qu'il a besoin de ressourcement et de moyens supplémentaires.
La Fondation vit de ses fonds propres ou de beaucoup de dons et de générosité extérieure ?
Alors la Fondation ne fait pas appel spontanément aux dons, car nous pensons que d'autres structures ont besoin de collecter ces dons. Nous reposons sur un modèle économique tout à fait unique en France, qui a été voulu par nos fondateurs il y a donc maintenant un peu plus de 100 ans. Ce modèle repose d'une part sur le fait que les Cognac-Jay ont apporté à la Fondation un patrimoine d'habitation que nous exploitons et pour lequel donc nous collectons un certain nombre de loyers comme il se doit. Et ces loyers servent à financer l'investissement dans nos établissements. Par ailleurs, la Fondation était actionnaire de la Samaritaine et à ce titre-là, elle détient un patrimoine financier qu'elle met là encore au service de ces établissements.
En quoi consiste, Jean-Luc Fidel, le laboratoire des solidarités, le Lab Solidaire ?
Alors, c'est une réflexion que nous avons menée à l'occasion de la préparation de notre centenaire. Nous avons souhaité pouvoir rendre plus visibles les expériences innovantes en France ou à l'étranger en matière de solidarité sociale. La solidarité sociale, c'est toute la forme de solidarité qui dépasse la solidarité nationale. Et c'est un foisonnement de structures associatives, fondatives, des mutuelles notamment, qui œuvrent au quotidien pour améliorer la situation des plus fragiles de nos concitoyens. En France, cela représente à peu près 1600 fondations, associations et mutuelles qui utilisent leurs moyens pour les mettre au service d'une cause désintéressée à travers des établissements d'intérêt général, qu'ils soient des hôpitaux, des maisons de retraite, des structures pour handicapés notamment.
Surtout que la solidarité en 2017-2018 n'a plus le même sens que la solidarité en 1916. Elle a évolué, les besoins se sont multipliés. Et on le voit quotidiennement, ça veut dire que vous, vous cherchez à orienter vos actions aussi en fonction des nouveaux besoins. Quels sont-ils? Vous les repérez? Vous en faites collecte, une base de données pour avancer?
Oui, alors nous essayons effectivement de repérer des projets les plus innovants. Nous avons pour cela un nouvel outil que nous avons mis en œuvre, qui est le prix Fondation Cognac Jay, que nous avons lancé à l'occasion de notre centenaire. Et nous primons 6 lauréats au minimum. Sur des activités extrêmement diverses, de manière à soutenir l'innovation en solidarité sociale. Par exemple, le lauréat du prix Cognac Jay 2016 est une styliste qui fabrique et conçoit des vêtements pour des malades qui ont des problèmes de modification de leur corps. Mmh. Et donc, voilà un exemple très simple, c'est une action très concrète. Aujourd'hui, cette jeune styliste travaille dans nos établissements, vient en aide à certaines patientes atteintes de cancer pour leur permettre de se sentir mieux au quotidien à travers des vêtements adaptés à leur situation.
Et si je vais sur solidarum.org, que vais-je trouver?
Alors, vous allez trouver plus de 250 reportage qui présente autant d'innovations sociales en France, en Europe, mais aussi à l'étranger, au Japon, au Brésil, en Afrique, de manière à offrir une vitrine donc à l'ensemble des personnes qui sont intéressées par la solidarité sociale de découvrir des projets extraordinaire.
Et puis vous publiez annuellement donc un MOOC entre le livre et la revue qui s'appelle Vision solidaire, évidemment au pluriel pour demain. Numéro 2, le numérique est-il compatible avec l'action solidaire? Ça c'est le thème du dossier principal de ce MOOC. Vous devriez reprendre ce slogan, à vous Cognac Jay. Ce serait pas mal. cognac-jay.fr pour l'adresse internet de la Fondation. Jean-Luc Fidèle, merci.
Merci bien.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand, sur France Inter.
Comme nous avons un petit peu de temps en supplément et que nous sortons avec cette édition spéciale du département de l'Essonne, je voudrais vous faire part et vous transmettre un courrier parmi les nombreux que nous recevons. Il y a des coups de pouce, des demandes de coups de pouce, d'aide, des recherches de conseils. Et puis parfois, et évidemment très souvent des messages d'optimisme, et puis parfois des messages un peu dépités. Suite à la présentation d'une relance entreprise familiale par deux jeunes repreneur. Effectivement, nous avons reçu le courrier de Stéphane, il y a quelques mois. Je l'avais gardé en me disant peut-être que le jour où j'ai l'occasion de vous le faire partager, je le ferai. Stéphane, lui-même entrepreneur et styliste de son métier à Bordeaux. Sa lettre, loin d'être courroucée, témoignait des limites à la vogue du Made in France et à l'usage outrancier du marketing, disait-il, qui force parfois les portes des médias. Nous n'y succombons pas nécessairement à chaque reprise, hein, je rassure. L'entreprise que nous avions présenté, d'ailleurs, faisait montre d'un bon savoir en matière de communication, tout en produisant des articles de très haute qualité. En l'occurrence, il s'agissait de chaussures de montagne. C'est une entreprise familiale, très vieille entreprise, qui avait été reprise en main par ces deux jeunes entrepreneurs. Donc, rien à reprocher. D'ailleurs, je le répète, le ton du courrier de notre correspondant n'était pas celui du reproche, mais il traduisait une évidente fatigue à se battre contre une concurrence de fabrication à bas coût et de vente à prix modique en provenance de l'étranger, notamment d'Asie. Mais pas uniquement. Mieux, lui et Marie, son associé, profitaient depuis la création de leur entreprise de ce Made in France tant prisé, mais difficilement accessible dans leur filière, au petit budget. Un t-shirt maison, écrivait-il, à 75€ contre 10€ dans une grande enseigne de fringues à bon marché, rendait leur mission quasi impossible. Stéphane déplorait donc dans son courrier une réalité qu'il ne faut toutefois pas généraliser, mais je cite, les Français achètent selon leur portefeuille et le coût de la production hexagonale est au-dessus de leurs moyens. D'ailleurs, une majorité de consommateurs ne regardent pas la provenance des articles qu'ils achètent. Ça, c'est à vérifier, mais on peut en discuter. Le marketing est une chose, ajoute Stéphane, mais en temps de crise, il tombe rapidement. Il faut endosser toutes les autres compétences, commerçants, photographes, comptables, étalagistes, informaticiens, webmaster, en plus du travail de création de couture et de stylisme. À cela s'est ajoutée une frilosité des boutiques indépendantes quand elles n'ont pas cessé leur activité. Aujourd'hui, Stéphane, écrivait-il, s'épuise et pense à changer de voix. Il conserve pour l'instant son atelier boutique à Bordeaux qui répond au nom de Gianna et moi. Je voulais ici simplement le saluer, faire preuve de réalisme, réalisme qui ne doit pas éteindre nos envies de créer des emplois et d'inventer un monde un peu moins frileux. Bien, question vêtements, le terme s'imposait. GiannaetMoi.com pour l'adresse. Et puis dans un tout autre registre, je vous donne un conseil de spectacle à partager. Ça va s'appeler Cosmos 1969. C'est pas l'année érotique, mais c'est l'année lunaire avec la mission Apollo 11. Quelle musique aurait pu accompagner les trois astronautes en direction de la Lune en ce mois de juillet 1969? C'est sur cette première interrogation que Thierry Ballas a imaginé un parcours musical, une performance sonore, visuelle, aérienne, exceptionnelle. Thierry, sa compagnie, en dehors des créations musicales contemporaines, s'était déjà immergé dans l'univers musical du Pink Floyd, de Dark Side of the Moon, avec un spectacle performance, La face cachée de la Lune. Dans Cosmos 69, 1969, on va retrouver à nouveau le Pink Floyd, mais aussi les Beatles et David Bowie. La première création, c'est vendredi prochain à la Maison de la Musique de Nanterre. Il y a un lien pour cette création.